Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Olivier Beaugilot, vous êtes le président de Sanofi France, c'est-à-dire de l'une des puissances mondiales de la biopharmacie. C'est ça, Sanofi. C'est 110 000 collaborateurs qui transforment dans 100 pays l'innovation scientifique en solution de santé. Autrement dit, vous alimentez l'espoir de vaincre la maladie, de lui rendre la vie difficile avec les médicaments et les vaccins. Alors justement, parlons-en du vaccin et du vaccin français. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Elle est un peu, retardée, elle a été retardée, mais il y aura un vaccin français. Vous l'avez annoncé il y a déjà quelques jours. Ce vaccin français sera prêt dans 5 mois, c'est-à-dire au moment des fêtes de Noël. Vous confirmez ?
Absolument. Bonjour Charles Villeneuve, merci de votre accueil. Effectivement, il y aura un vaccin français. Sanofi travaille sur un vaccin à protéines recombinantes qui arrivera à la fin de l'année. Et d'ailleurs, sur un deuxième vaccin aussi, un vaccin ARN messager. On est le seul laboratoire au monde à avoir 2 candidats vaccins en développement. Donc on arrivera d'ici la fin de l'année. On viendra s'ajouter au fond aux autres vaccins. Je pense que dans cette pandémie, il faut avoir plusieurs réponses, plusieurs armes pour lutter contre ce virus. Et Sanofi apportera sa contribution à la fin de l'année.
Bon, ils étaient à peu près 250 laboratoires privés et publics au début de cette pandémie, il y a 2 ans. Et ils sont combien maintenant aujourd'hui qui survivent, enfin qui survivent de manière efficace, qui ont mis au point un vaccin, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bon, je ne parle pas des Russes et des Chinois, mais...
Il y a effectivement, vous avez raison, 250 équipes de recherche dans le monde qui se sont lancées tout au début de cette épidémie sur des candidats vaccins. Et à l'arrivée, vous en aurez peut-être 5 ou 6 qui seront sur le marché pour 2 raisons. D'abord parce que développer un vaccin, c'est quelque chose de complexe. Il faut avoir des compétences de recherche et de développement clinique qui sont extrêmement précises. Et puis, il y a aussi des éléments liés à la production. On a pu voir aussi dans cette épidémie que l'enjeu n'est pas seulement de trouver un vaccin, mais il faut le produire en quantité extrêmement importante, des milliards de doses. Et donc, quand vous êtes dans un laboratoire de recherche, souvent, vous n'avez pas cette compétence pour aller jusqu'au bout, au fond, de la production du vaccin. Je vous dis, à l'arrivée, sur les 250 candidats, peut-être que 5 ou 6 arriveront au bout et Sanofi en aura au moins
un. Alors, je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Parce que pour la France, pour l'État, pour Sanofi, cette pandémie a révélé nos vulnérabilités, nos échecs, notre retard. Comment l'expliquez-vous ? Parce que nous sommes quand même un pays de grands médecins, de grands chercheurs. On le voit dans le monde entier. Quand il y a des Nobel, il y a toujours au moins un Français. Mais on découvre tout de suite qu'il ne travaille plus en France, qu'il ne recherche plus en France. Moi, je m'en étais aperçu, je vous le raconterai dans les années 80-90. Alors, nos vulnérabilités, comment l'expliquez-vous ? Non, celle de Sanofi.
Alors, avant de parler de nos vulnérabilités, je pense qu'il faut quand même aussi se féliciter de la rapidité avec laquelle l'industrie pharmaceutique et la recherche et avec la mobilisation des États a pu répondre dans un temps absolument record à cette épidémie. Il faut savoir que développer un vaccin en général...
Ça met 10 ans.
Ça met 10 ans et avant l'épidémie du Covid, il y a un vaccin qui avait été développé plus rapidement. C'est un vaccin contre la maladie Ebola, une maladie infectieuse extrêmement grave. Et ça avait pris 4 ans.
Qui est apparu en Afrique, surtout.
Apparu en Afrique, extrêmement contagieux, mortel. Et là, malgré la mobilisation de tout le monde, on avait mis 4 ans pour développer ce vaccin. Là, avec le Covid... on arrive à des temps qui sont absolument vertigineux. On a mis 9 mois pour développer le vaccin ARN messager, quelques semaines de plus pour avoir le vaccin dit à adénovirus, celui qu'a développé AstraZeneca, et puis Sanofi arrivera en 18 mois. Donc vous voyez, entre 9 et 18 mois pour développer 3 technologies vaccinales, c'est totalement exceptionnel, ce n'est du jamais vu. Et je pense qu'il faut quand même s'en féliciter collectivement. La réponse de la science, la réponse des pouvoirs publics, la réponse collective, parce que les laboratoires ont travaillé les uns et les autres pour pouvoir essayer de mettre un terme le plus vite possible à cette épidémie, elle a été exemplaire. Moi, je m'en félicite. Alors, avant même de constater le retard ou le déclassement,
oui,
je voudrais quand même qu'il y ait cet élément de... Au fond... de satisfaction collective.
Oui, mais Olivier Beaugilot, vous qui êtes président de Sanofi France, on a été distancé malgré la qualité de notre corps de chercheurs, de notre corps médical. On l'a vu sur toutes les chaînes d'infos de télé, tous ces professeurs qui ont défilé, qui ont donné leur opinion, qui ont débattu, et je trouve positivement la plupart du temps. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu du mal à anticiper, nous avons eu du mal à réagir, parce que finalement, là, on a vu la démonstration du couple anticipation, réactivité. Ça a été vrai pour les Américains, ça a été vrai pour les Anglais. Alors même c'est... en France, une start-up comme Valneva a eu du mal à obtenir les aides publiques pour mettre au point, pour participer à cette recherche du vaccin.
Alors c'est très important votre point hein, sur une crise, c'est effectivement deux facteurs fondamentaux. C'est la réactivité, hein, l'anticipation et la vitesse. Et c'est vrai que d'autres pays, pour différentes raisons, et je peux vous les expliciter, d'autres pays ont eu une anticipation supérieure, j'allais dire à la France, mais aussi à l'Europe. Les Américains ont très tôt, quand je dis très tôt, c'est-à-dire à la découverte de ce virus en Chine, commencé à mettre en place, grâce à des outils qu'ils possèdent sur le sol américain, des autorités, mettre en place un programme pour voir de quelle manière on pouvait soit trouver un traitement, soit trouver un vaccin. Ça, c'est début janvier, c'est-à-dire que l'OMS considère que l'épidémie est en train de naître en Chine. Les Chinois publient en libre accès le génome, donc le code génétique du virus. Et à ce moment-là, les autorités commencent à dire comment est-ce qu'on peut trouver une réponse adaptée, soit un médicament, soit un vaccin contre ce virus, les autorités américaines.
Le président des États-Unis, malgré toutes ses fantaisies, Donald Trump, va injecter très vite, tout de suite, prendra cette décision de mettre 12 milliards de dollars pour l'injecter dans les laboratoires de recherche privés.
Absolument. Et c'est là où je dis qu'il y a des pays qui sont dotés d'outils. Alors, aux États-Unis, vous avez une structure qui s'appelle BARDA, hein, qui est une structure qui est à la fois sanitaire et qui a une composante aussi militaire. Et cette structure a pour objectif de préparer les épidémies. Donc, sous l'impulsion de cette structure, il y a eu des premiers programmes de recherche. Et puis, effectivement, le président des États-Unis de l'époque a, au mois de mars, hein, convoqué l'ensemble des industriels pour dire: nous souhaitons avoir un vaccin et des traitements le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au au même moment où l'épidémie débutait en Europe et où on commençait à se poser des questions sur est-ce qu'on va avoir suffisamment de masques, est-ce qu'on a des respirateurs, etc., les Américains commençaient à réfléchir à avoir un traitement et un vaccin.
Les Anglais aussi.
Les Anglais se sont posés exactement la même question.
Boris Johnson.
Absolument. Et y a un travail très rapide qui a été fait avec l'Université d'Oxford et AstraZeneca. AstraZeneca, il faut le rappeler, ne fait pas de vaccin, mais ils sont associés avec l'Université d'Oxford pour pouvoir arriver rapidement avec un vaccin. Donc, si vous voulez, on peut pas forcément vouloir à la France ou à l'Europe de ne pas avoir les outils, parce que ce n'est pas dans les compétences européennes d'avoir le sanitaire. Hein, la santé n'est pas une compétence européenne. Mais je pense que c'est une des leçons qu'on doit tirer de cette crise, c'est qu'il faut qu'on se dote d'outils pour être dans cette composante que vous avez parfaitement résumée, l'anticipation et la vitesse.
Alors, je dois dire que beaucoup se sont un peu anti-ironisés sur le retard et la panne de Sanofi. Moi, je trouve que vous avez été extrêmement modeste et courageux, parce que vous avez accepté d'être sous-traitant, d'aider les entreprises qui ont les laboratoires, qui ont mis au point les vaccins, comme Pfizer, AstraZeneca et évidemment Moderna, dirigés par des Français, parce qu'on retrouve à la tête de beaucoup de ces laboratoires des Français.
Absolument. Hein,
comme Bancel, justement, qui vient du Sud, à côté
Pascal
de...
Pascal Sorio chez AstraZeneca,
voilà,
vous avez
tout
raison.
À fait. Et vous avez accepté de fabriquer ces vaccins qui ne sortent pas de vos laboratoires pour aider justement la vaccination de masse.
Alors, il faut rappeler peut-être un peu d'histoire sur ce qui s'est passé au fond depuis mars 2020. En mars 2020, vous avez différents laboratoires qui décident de se lancer sur des vaccins en utilisant différents types de technologies. Et Sanofi choisi une technologie qui est la protéine recombinante adjuvantée, qui en mars de l'année dernière est probablement la technologie la plus efficace connue dans la vaccination. On fait ce choix-là parce qu'on maîtrise cette technologie.
C'est quoi, c'est le vaccin contre la grippe,
c'est la même technologie que le vaccin contre la grippe, absolument. Et on choisit cette technologie, on ne choisit pas l'ARN messager parce que l'ARN messager, jusqu'au Covid-19, ça n'a jamais fait ses preuves. On ne sait pas si ça va marcher. Et puis vous avez une...
Or, ça va marcher.
Or, ça a marché et je pense qu'il faut tous s'en féliciter. C'est une extraordinaire nouvelle que ça ait marché avec ce niveau d'efficacité et de tolérance.
Oui, chapeau.
Mais c'est pour replacer Sanofi. Et quand Sanofi fait ce choix-là, on sait que ça sera plus long éventuellement que l'ARN messager. On sait que ça sera probablement plus long aussi que la technologie utilisée par AstraZeneca, l'adénovirus ou de Johnson & Johnson. Mais on l'assume parce qu'au fond, on se dit, si les deux autres ne marchent pas, peut-être que nous, on marchera. Et au fond, il faut bien que tout le monde se rende compte que c'est une très bonne chose que des industriels aient choisi plusieurs technologies. Parce qu'on voit bien, si une marche mieux que l'autre, c'est quand même au bénéfice des patients. Donc, qu'il y ait plusieurs technologies différentes lancées simultanément, quitte à ce qu'elles arrivent avec des décalages dans le temps, c'est pas grave et c'est même une bonne chose parce que ça permet d'avoir plusieurs flèches dans le carquois au cas où une ne fonctionne pas.
Et alors, on va développer justement cette idée de la diversité, de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Et il faut s'en féliciter, la preuve, et c'est ce qu'on va aborder comme sujet. Dans quelques instants, on marque un petit entracte pour reprendre vos esprits et votre souffle.
Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Olivier Bogilot, je rappelle que vous êtes le président de Sanofi France, qu'on parle du vaccin français, puisque Sanofi va avoir le sien, évidemment, avec un peu de retard, mais il n'empêche qu'en 3 ans, c'est aussi une performance, autant que Pfizer, autant que Moderna, autant qu'AstraZeneca. Bon, en tout cas, il ne faut pas faire de nationalisme dans ces affaires-là. Finalement, on s'aperçoit qu'il faut mettre ses œufs dans beaucoup de paniers pour avancer. Parce que si l'un des plus puissants laboratoires de recherche se trouve en panne, l'autre, lui, fonctionne et est avancé dans la recherche. C'est un peu le calcul que vous avez fait aussi.
En fait, les laboratoires ont tous fait des paris technologiques sur cette épidémie et il s'avère que la plupart de ces paris ont été gagnés, ce qui est une bonne chose. Mais imaginez 2 secondes que l'ARN messager et l'adénovirus n'aient pas marché. Tout le monde serait assez content que Sanofi ait développé une technologie, une troisième type de technologie, pour voir si celle-ci, au fond, aurait pu marcher. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs technologies simultanément, c'est une bonne chose. Mais je voudrais revenir sur le point de la sous-traitance, parce que c'est très important. Nous avons développé notre vaccin, et puis à un moment, on a eu des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Ce qui nous a conduit à devoir refaire une étude.
Là, vous parlez de Sanofi.
De Sanofi. Et ça nous a conduit à devoir refaire une étude qui nous décalait dans le temps de quelques mois. Et bien là, moi, je trouve que la décision qui a été prise par Sanofi, qui a été prise par Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, et son comité exécutif, sont réunis très vite et ils ont dit, on a un retard de quelques mois, comment est-ce qu'on peut mettre la puissance industrielle de Sanofi au service de nos concurrents pour les aider à produire plus de doses? Et moi, j'étais dans cette salle de réunion et j'ai vu tout autour de la table l'ensemble des collaborateurs dire, il faut qu'on y aille et qu'il faut qu'on y aille vite. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de travailler avec Pfizer-BioNTech pour produire plusieurs centaines de millions de doses pour eux. On va le faire aussi pour Johnson & Johnson. On le fait pour Moderna aux États-Unis. Et donc, Sanofi n'est pas seulement un laboratoire qui produit un vaccin, mais effectivement qui s'est mis au service des autres pour répondre à une seule chose à cette épidémie. C'est au fond une forme de responsabilité qu'on avait. Et moi, je suis très fier que Sanofi ait accepté ça. Vous savez, ça ne se fait pas tous les jours, une collaboration comme ça. Et qu'on le fasse pour nos concurrents, j'en suis particulièrement fier, je voulais vous le dire.
Mais je comprends. Mais vous comprenez aussi que nous nous sommes tous posés, les Français, de base, au fond, nous sommes des patients de base. Nous nous sommes tous posés une question en se disant, mais est-ce que nous, la France, fondamentalement, sommes-nous devenus un pays qui ne croit plus au progrès scientifique et technique? On a été à la traîne tout le temps, en se disant, les Américains, les Anglais, les Russes, les Chinois, les inamovibles du Conseil de sécurité de l'ONU ont tous leur vaccin, sauf nous. Nous sommes le 5e, sauf nous. Vous comprenez
cet état d'esprit. Je comprends. Alors, on finira par l'avoir. Mais ce qui est très important dans votre question, c'est au fond de regarder comment la France et l'Europe a traité le secteur de l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Et c'est vrai qu'au cours des dernières années, un grand nombre de gouvernants ont considéré que ce n'était pas un secteur stratégique. Ont plutôt considéré que c'était une source de dépenses. Parce que les dépenses de médicaments sont remboursées hein, par l'assurance maladie, par la sécurité sociale, et il fallait faire des économies. Il y a eu des déficits, il fallait résorber les déficits, et le meilleur moyen de résorber ces déficits, c'était de baisser le prix des médicaments et de faire des économies sur ce secteur. D'autres pays n'ont pas eu du tout cette approche. Ils ont considéré que c'était un secteur stratégique, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, d'une certaine manière, l'Angleterre, et il y a eu des investissements majeurs en recherche, en développement, dans l'outil industriel, ce qui fait que lorsque vous regardez mon secteur aujourd'hui, le secteur de l'industrie pharmaceutique, c'est vrai que vous avez un leadership très fort aux États-Unis, vous avez la Chine qui est en train d'investir massivement, et nous, en Europe, depuis 10 ans, on avait un peu regardé ce secteur plutôt comme une dépense. Cette crise, au fond, elle a révélé cette vulnérabilité-là, vous l'avez dit, ça révèle les vulnérabilités, mais ça a aussi rappelé à tout le monde que ce secteur, il est stratégique et qu'il nécessite d'avoir des investissements importants en recherche, en développement et dans l'outil de production.
Et de manière constante.
Et de manière constante, parce que la recherche dans le secteur du médicament, des industries de santé, c'est des recherches qui prennent plusieurs années. Donc, lorsque vous commencez à trouver un dysfonctionnement cellulaire, entre le dysfonctionnement de la maladie et le traitement, il peut se passer plusieurs années, une dizaine d'années en général, avant de trouver un médicament qui fonctionne. Et donc, si vous n'avez pas d'investissement constant, si vous n'avez pas une volonté politique constante, eh ben, vous pouvez être déclassé.
On ne l'a pas eu, nous, manifestement. Ça fait 10-15 ans qu'on ne l'a pas.
Dans la compétition internationale, c'est vrai que l'Europe et la France en particulier, c'est plutôt déclassé. Je vais vous donner un chiffre très précis. Jusqu'en 2004, je crois, la France était le premier producteur de médicaments d'Europe. On est aujourd'hui le quatrième.
Derrière
l'Allemagne, derrière la Belgique, l'Italie de mémoire. L'Italie vient juste de nous passer devant. Donc il y a eu un choix politique fort de ces États-là pour investir sur ce secteur-là. Je vous dis, la France a été... dans une autre forme d'investissement, il y a eu un choix de faire des investissements sur l'offre de soins, sur l'hôpital ou sur d'autres secteurs, mais pas celui-ci. Or, on voit bien que dans une crise, avoir des technologies de santé, avoir une industrie pharmaceutique forte, c'est très utile.
Alors, vous venez de le dire, la pandémie a fait émerger la santé comme thème majeur dans le débat public. Bon. Je vais vous je vais citer Emmanuelle Charpentier. Vous voyez qui est
bien sûr.
Emmanuelle Charpentier, qui est une jeune chercheuse française qui travaille en Allemagne, à Berlin, dans un laboratoire allemand, et qui a eu le prix Nobel et qui, par sa trouvaille des ciseaux génétiques avec une chercheuse américaine, évidemment, elle a partagé ce prix Nobel, a révolutionné la génétique. Bon, et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Ma motivation principale a toujours été la liberté de recherche. Or, l'avantage, là où je suis à Berlin, à Max Planck, c'est le nom du labo, est d'avoir un budget durable qui me permet de développer des projets à long terme. » Et c'est ça qu'on ne permet plus en France, à long terme. Vous savez, dans les années 80-90, j'ai passé une semaine entre le site nucléaire de recherche nucléaire de Los Alamos, dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et à Livermore, au laboratoire de recherche du laser, près de San Francisco. Sur 22 chefs de recherche, 6 étaient français, jeunes français. 6 chefs de recherche. Et c'était des trouveurs, c'était pas seulement des chercheurs. Parce qu'aux États-Unis, si vous ne trouvez pas, finalement, on vous coupe les crédits. Bon, et cette situation n'existe plus en France. Est-ce que cette pandémie va nous permettre de la rétablir ?
Écoutez, ça j'espère. Ce que vous décrivez, c'est au fond une forme de paradoxe. On a un système de formation en France de chercheurs qui est de très bonne qualité. Nous avons de très bonnes écoles, nous avons de très, très bons chercheurs formés. Le problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on les garde et comment est-ce qu'on crée les conditions pour les garder. Et pour ça, il faut effectivement, ce que dit très bien Emmanuel Charpentier, il faut des investissements publics pour que les laboratoires de recherche fondamentale soient bien financés sur des temps longs, avec suffisamment de moyens. Il ne s'agit pas de saupoudrer les moyens, il s'agit de mettre les moyens, des moyens conséquents sur des projets qui ont une vraie valeur. Il s'agit aussi de permettre davantage de partenariats publics-privés. C'est-à-dire que...
Ça, c'est très important.
C'est très important parce que c'est, si vous regardez au fond le bon cocktail dont on a besoin pour faire émerger de la science, c'est ce qui existe dans des endroits géographiques comme Boston, San Francisco, comme Cambridge en Angleterre ou certains sites en Allemagne. C'est vous avez simultanément de la recherche académique publique, vous avez un tissu d'investisseurs qui investissent auprès de la recherche académique pour monter des sociétés de biotechnologie, donc des start-up. Et puis vous avez des grands laboratoires à côté qui regardent ces start-up et les aident à se développer, soit en faisant des accords de licence, soit par des rachats. Et tout ça est très vertueux. Vous avez à la fois du public, du privé, des investisseurs, des biotech, des grandes pharma. C'est ce qui permet aujourd'hui à des pays comme les États-Unis d'avoir ce qu'on appelle des clusters de taille mondiale, hein, Boston, San Francisco, San Diego, Cambridge en Angleterre. La France n'a pas de cluster de taille mondiale dans les sciences de la vie. Et Sanofi a récemment annoncé un partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, Polytechnique et l'Université de Paris-Saclay, donc des mathématiciens, des gens qui travaillent sur les données de santé, des cliniciens à l'IGR, hein, qui sont parmi les meilleurs du monde, vous les avez décrits, hein, on a parmi les meilleurs du monde, plus Sanofi. Pourquoi ? Pour essayer de faire un cluster de taille mondiale, au moins dans la cancérologie. On est un des pays les meilleurs du monde en cancérologie. Moi, j'espère que ce partenariat, où on va essayer d'attirer d'autres partenaires, nous permettra demain d'avoir en France, enfin, un cluster de taille mondiale dans les sciences de la vie.
Écoutez, il y a deux révélations de notre époque, en tout cas, des axes d'investissement très importants. Le climat et aujourd'hui la santé. Et on n'a pas le sentiment, quand on est simple quidam, comme je le suis, certes journaliste, observateur de tous ces phénomènes, de ces systèmes, que nous fassions un effort très important. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire de se défendre et de travailler dans les sciences, justement, de technologie d'armement, parce que ça tient aussi au commerce extérieur. Mais la santé, c'est capital, c'est stratégique. Je ne comprends pas qu'on ait délaissé cette... Alors, j'entendrai votre réponse dans quelques secondes. On va faire un deuxième entracte. Olivier Bogilot, président de Sanofi France. Je le répète parce qu'évidemment, dans le feu de l'action et des idées qu'on développe, on oublie finalement qui nous sommes. Et donc, nous parlons de la recherche et du fait que l'État a un peu délaissé un certain nombre de secteurs de recherche. Or, notre époque, je vous le disais juste avant cet écran de publicité, notre époque a révélé évidemment la nécessité de s'occuper du climat, de l'environnement et aussi de la santé. Et la santé, c'est aussi les médicaments. Et les médicaments, c'est aussi Sanofi.
Alors, effectivement, vous avez raison. Je pense que les enjeux du 21e siècle, c'est l'environnement, le climat et la santé. Et je pense que cette crise l'a parfaitement démontré, puisque, au fond, l'émergence de ce virus vient probablement de dérèglements climatiques ou d'enjeux d'environnement, de passage de la biodiversité du monde animal au monde humain. Et donc, les deux sont liés. La santé, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs, lorsqu'on regarde les sondages, la priorité des Français. Les Français veulent avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, il leur faut des médecins à proximité. Il leur faut un service de santé hospitalier qui soit très performant. On a beaucoup de chance en France, on a un très bon système de santé public et privé. Et il leur faut une industrie pharmaceutique forte. Et au fond, je ne suis pas totalement sûr que les Français, pour les raisons qu'on a évoquées dans la première partie de l'émission, aient bien conscience des évolutions scientifiques qui sont en train de se dérouler. L'ARN messager est probablement une preuve que la technologie avance beaucoup. Mais... si je regarde chez Sanofi ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, ce sont des transformations et des modernisations considérables. Il y a 10 ans, Sanofi, c'était une société qui faisait beaucoup de chimie et qui faisait des médicaments issus de la chimie. On en fait toujours. J'ai toujours chez Sanofi des chercheurs dans la chimie qui sont de très haut niveau. Mais l'émergence de la biotechnologie et de la biologie a tout changé. Et depuis 10 ans, Sanofi se renforce sur ces nouveaux métiers, sur ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, les médicaments que nous avons dans notre portefeuille chez Sanofi sont des médicaments très complexes, soit issus de la biotechnologie, soit issus de la chimie, mais qui s'adressent à qui ? Aux malades du cancer, aux patients qui ont des scléroses en plaques, aux patients qui ont un asthme sévère. Donc vous voyez, on est sur des maladies qui sont très lourdes, très graves. Et ce qu'on essaye de faire chez Sanofi et ce qu'on essaye de faire dans l'industrie pharmaceutique, c'est d'apporter des médicaments, des traitements pour ces maladies-là. Et avec un espoir, pouvoir guérir des gens. Vous savez, quand je regarde certains types de cancers aujourd'hui, il y a quelques années, ils étaient mortels. Aujourd'hui, ils deviennent chroniques. On vit avec son cancer pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est quand même une bonne nouvelle. Et je pense qu'il va y avoir une demande des gens dans les années qui viennent d'avoir une très bonne santé. Il faudra du coup avoir une industrie pharmaceutique forte.
Est-ce que on parle évidemment on a parlé des médicaments, donc on peut parler aussi des vaccins.
Oui.
La vaccination contre la Covid, elle, en réalité, c'est un virus qui ne va pas quitter le marché, si j'ose dire, des patients aussi rapidement qu'on l'imagine. Je crois que le virus va rester. Le PDG de Moderna l'a annoncé, a insisté là-dessus. C'est que ce virus va devenir commun aux patients, comme l'est la grippe.
Oui, je...
Et là, votre vaccin va jouer un rôle, d'ailleurs, parce qu'il nous faudra certainement une troisième dose.
Absolument. Vous avez raison sur le fait que, contrairement aux autres épidémies, à SARS-CoV, donc le Covid-19, est sorti de la zone géographique asiatique pour se répandre dans le monde entier. Et on a vraisemblablement un virus qui va tourner avec un certain nombre de résurgences qui apparaîtront régulièrement. Les vaccins qui ont été développés là permettent de se protéger, et j'appelle tous ceux qui peuvent se faire vacciner, doivent se faire vacciner.
Continuez
à vous faire vacciner, c'est très important pour se protéger et protéger les autres. Mais sur votre point, il est effectivement... quand vous avez un virus qui diffuse comme ça, d'abord, vous avez des mutations qui apparaissent, donc vous avez des variants qui apparaissent. On ne sait pas encore totalement si l'efficacité des vaccins va s'atténuer à travers le temps, comme ça peut exister avec d'autres vaccins, et ce qui nécessitera des doses de rappel. Nous, chez Sanofi, on développe... le léger retard qu'on a eu nous a permis de faire un programme de recherche où on développe aussi de la recherche sur cette dose de rappel. Si vous avez été vacciné par de l'ARN messager ou de l'adénovirus, vous pourrez éventuellement avoir une troisième dose du vaccin de Sanofi. On fait des tests actuellement.
Ce sera compatible, par exemple, moi je suis vacciné, double dose Pfizer. Ce sera compatible avec pour la troisième dose.
Et c'est exactement les essais qu'on est en train de conduire. L'idée, c'est de voir sur des profils comme vous, si lorsqu'on fera une troisième dose du vaccin de Sanofi, vous avez une très forte remontée de votre protection immunitaire. Votre corps doit produire des anticorps contre le virus. La troisième dose, on va l'essayer avec tous les cocktails de vaccins que les patients ont pu avoir pour vérifier que...
Là, vous avez un nombre de patients qui sont volontaires.
Absolument.
Dans plusieurs pays.
Dans plusieurs pays et en France aussi. On débute d'ici la fin du mois de juillet les essais en France sur cette étude dite de booster, hein, parce qu'on veut booster votre système immunitaire avec une troisième dose.
C'est quoi, ce sont des centaines de patients ?
En France, il va y avoir des centaines. Dans le monde, il y en aura des milliers.
Et ça va continuer jusqu'en décembre, jusqu'au moment où il sera au point.
L'idée, effectivement, c'est d'avoir, d'ici la fin de l'année, aussi un enregistrement de notre vaccin avec cette indication de booster de système d'immunité de troisième dose.
Alors, je voudrais avoir votre réaction sur un phénomène qui est apparu justement à l'occasion de l'expansion de cette pandémie. Les questions de santé publique sont devenues au cours des derniers mois des sujets polémiques à part entière,
oui.
Et notamment l'usage de certains médicaments. Évidemment, je ne vais pas refaire la polémique avec le professeur marseillais et l'hydro, j'arrive jamais à le dire, hydroxychloroquine, c'est ça?
Oui.
Bon. Est-ce qu'on n'assiste pas à une désacralisation du pouvoir médical?
C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a effectivement eu beaucoup de commentaires, beaucoup de commentateurs. Moi, ce que je pense, c'est que...
Mais il y a une demande de transparence, de pédagogie.
Exactement, il y a une demande de transparence et la transparence, c'est très important parce que la transparence, c'est la confiance. Et lorsque vous êtes en plus dans la vaccination, on voit bien avec ceux qui ont peur, qui ont des défiances, le seul moyen de les convaincre, c'est d'avoir une science parfaitement transparente et des propos qui vous permettent d'avoir totalement confiance dans une injection. C'est lorsque vous faites vacciner, c'est un acte de confiance aussi dans la science. Donc, que des commentateurs viennent pour faire cette pédagogie, c'est très important. Après, il y a eu des débats entre chercheurs. Et là, j'allais dire, ça a toujours existé. Hein, il y a toujours eu des débats entre les chercheurs depuis des millénaires où les écoles se renvoient la balle les uns les autres.
Oui, mais là, ça va au-delà. Ce n'est plus les catégories spécifiques des chercheurs. Là, c'est le grand public. Là, tous les matins, toute la journée, on assiste au débat sur les chaînes.
C'est ce qui change effectivement avec les chaînes, les radios, les chaînes d'info en continu, où vous avez le débat en permanence qui peut créer de la confusion. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait qu'on soit en capacité de communiquer sur la base d'informations scientifiques. Il fallait avoir une certaine forme d'humilité lorsqu'on ne sait pas. Parce que dans cette épidémie, il y a plein de choses qu'on a découvert. Hein, et il est légitime de ne pas savoir de temps en temps. Les chaînes d'infos en continu, les radios, veulent une réponse immédiate. Et parfois, vous ne l'avez pas, cette réponse. Il faut attendre un peu, il faut attendre les résultats d'une étude. Vous savez, Sanofi est le producteur de l'hydroxychloroquine. Et moi-même, je suis venu sur des plateaux l'année dernière pour dire si ce médicament est efficace, on le produira en quantité suffisante, et on le donnera gratuitement. Et il s'avère que les mois ont passé et on n'a pas eu la preuve scientifique que ce médicament était efficace. Donc, voilà, vous voyez, il faut faire preuve d'humilité. Lorsque j'avais pris la parole à cette époque-là avec le CEO de Sanofi, Paul Hudson, il y avait une volonté d'apporter notre contribution, mais on était nous-mêmes conscients qu'il fallait attendre que les résultats des études soient confirmés. On a fait aussi d'autres études avec un autre médicament chez Sanofi, qui est un médicament, un anticorps monoclonal, une interleukine 6, c'est un peu compliqué, mais c'est une molécule, un médicament un peu technique. Et on a fait des premières études sur ce médicament-là.
Pour lutter contre quoi?
Contre le Covid.
Ah oui.
Contre les formes sévères de Covid, pour les patients qui sont susceptibles d'arriver en réanimation. Vous savez que dans ce Covid, en fait, quand vous arrivez en réanimation, vous avez une tempête interne qui modifie vos composantes biologiques. Et on avait un traitement qui semblait être efficace là-dedans. On a fait quelques essais. Les résultats n'ont pas été totalement satisfaisants, mais le temps montre qu'au fond, sur certains patients, ça peut être utile. Le temps est nécessaire de temps en temps pour avoir la preuve scientifique.
Évidemment. Mais je me demande si ceux qui nous écoutent savent ou ne savent pas, moi je ne le savais pas, quel est l'un des médicaments les plus connus, les plus efficaces que Sanofi fabrique. Parce qu'on parle de médicaments et on n'en cite aucun. Et moi je ne savais pas que c'était le Doliprane. Bon. Et oui, des Doliprane, on en prend tous, évidemment. Bon, alors je passe, je ne fais pas la pub de Doliprane, il n'y a pas de problème, mais enfin, il n'empêche qu'il faut connaître aussi le nom des médicaments fabriqués.
Moi, sur Doliprane, je veux tirer un grand coup de chapeau aux équipes de Sanofi qui ont travaillé dans les usines. Vous savez, on a 18 usines chez Sanofi en France. On est présent dans tous les territoires. Et j'ai des usines de Doliprane. Et quand vous avez eu la crise du Covid, les gens se sont précipités en pharmacie pour pouvoir avoir leur boîte de Doliprane parce que parmi les symptômes du Covid, vous avez de la fièvre. Et donc, pour faire baisser la fièvre, ils voulaient du Doliprane. Les gens dans les usines de Sanofi ont travaillé pendant jour et nuit, pendant les week-ends, pour être capables de répondre à la demande. Et quand vous avez ce niveau-là d'engagement, alors même qu'eux-mêmes étaient dans une période de Covid, avec les doutes, est-ce que je dois aller travailler, etc., il y a eu une présence des collaborateurs de Sanofi dans les usines qui a été exceptionnelle. Ils ont augmenté les cadences, ils ont augmenté les volumes, ils ont livré les Doliprane dans les pharmacies, ils ont livré des antibiotiques aux hôpitaux, ils ont livré tous les médicaments et même mieux, les essais cliniques avec les médicaments les plus performants que nous avons dans notre portefeuille. Tous les patients qui participent à ces essais cliniques ont reçu leurs médicaments, y compris pendant le cœur de la crise. Je voudrais leur tirer un coup de chapeau, ils ont fait un travail formidable.
Alors, Olivier Bougereau, président de Sanofi France, nous allons aborder la dernière partie de l'émission. Et vous avez à plusieurs reprises rassuré nos compatriotes sur l'approvisionnement en vaccins et l'accès de tous à ce dernier. Mais je voudrais qu'on aborde, et cette réponse on l'entendra après l'entracte de publicité, est-ce que cette crise ne sonne pas l'échec d'une mondialisation accélérée et est-ce qu'elle ne montre pas les limites de la délocalisation d'activités à l'étranger ?
10h-11h sur Europe 1, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Olivier Bougereau, président de Sanofi France. Alors, juste avant l'entracte publicitaire, je vous avais posé une question. Est-ce que nous n'assistons pas à l'échec d'une mondialisation accélérée et est-ce qu'on ne montre pas les limites de la délocalisation d'activités à l'étranger par rapport aux médicaments et aussi aux vaccins ?
Alors, c'est une question très importante parce que tout ça, c'est une question d'équilibre à trouver. Vous avez eu effectivement, au cours des 15 dernières années, souvent sous pression économique des systèmes de santé, hein, alors, j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on fait des baisses de prix sur les médicaments, lorsqu'on veut faire des économies, ça entraîne effectivement les industriels à plutôt délocaliser leurs usines vers des pays où les coûts sont moins élevés. Il s'avère que Sanofi ne l'a pas fait. On a décidé, nous, de garder nos actifs de production en France et en Europe. Mais lorsque vous avez ces délocalisations-là, au fond, ça se passe bien quand tout va bien. Mais lorsque vous avez une crise, comme celle du Covid-19, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez des vulnérabilités. Si la Chine ferme ses frontières, si l'Inde ferme ses frontières, vous pouvez avoir des ruptures de médicaments. Et c'est là où je pense que l'équilibre à trouver est important. Il faut, à mes yeux, qu'on ait des actifs de production, donc des capacités de production en Asie, mais en Europe et aux États-Unis. Il faut que les grandes plaques mondiales puissent avoir des capacités de production. C'est vrai aussi d'ailleurs pour l'Afrique. Hein. On peut avoir des capacités de production d'Afrique du Sud. Sanofi a des partenariats avec l'Afrique du Sud pour avoir des capacités de production sur ces territoires-là. Parce que l'autonomie sanitaire, la souveraineté, passe par des sources multiples d'approvisionnement. Si vous êtes dépendant d'une source d'approvisionnement, vous êtes à risque.
Et donc... Il n'empêche que jusqu'à présent, la politique de santé et de recherche est restée quand même plutôt nationale. Et est-ce qu'il ne faut pas changer d'échelle ? Et par exemple, en privilégiant la coopération intergouvernementale sur le modèle d'Airbus ou d'Ariane, avec les Allemands, avec les Anglais, avec l'Union européenne, est-ce que pour la politique de santé, on ne doit pas suivre le même chemin ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse européenne sur le sujet des délocalisations et de la production. Parce que l'enjeu, ça serait pas le risque, si vous voulez, c'est que les États, à la suite de cette crise, disent « Ah bah tiens, moi je vais relocaliser en Allemagne, en Italie, en Espagne, des productions de médicaments qui, au fond, en concurrence les unes avec les autres, ne vont pas permettre à ces usines de production d'être viables. Donc il faut qu'il y ait une répartition. Il faut que l'Allemagne travaille avec l'Italie, avec la France, avec la Belgique ou
sur
l'Espagne.
Sur les médicaments, ce n'est pas le cas quand même un peu.
Il faut identifier les médicaments absolument essentiels dont on a besoin en Europe, vérifier qu'on a des capacités de production et au fond... Peu importe où elle se trouve, je préférerais qu'elle soit en France, mais si elle se trouve en Allemagne ou si elle se trouve en Italie, c'est bien aussi, il faut que l'Europe se dote d'une forme d'autonomie sanitaire sur des médicaments essentiels.
Alors, les enjeux de santé, est-ce qu'ils seront au cœur de la prochaine élection présidentielle ? Est-ce qu'il faut l'espérer ou le redouter ?
Alors, les auditeurs ne vous voient pas, mais je vous vois sourire en me posant la question parce que vous avez déjà la réponse.
Effectivement, mais je souris beaucoup, vous savez.
Effectivement, je pense que cette crise replace la santé dans le cadre d'un débat avant une présidentielle. Et puis, vous savez, une élection présidentielle, c'est des candidats qui doivent porter une vision pour le pays et comme je disais tout à l'heure, les questions de santé sont devenues quelque chose de fondamental pour les Français et donc je pense qu'ils attendront que les candidats à la présidentielle viennent avec une vision sur le système de santé, viennent avec une vision industrielle sur le secteur des industries de santé Et au fond, moi j'espère qu'il va y avoir du débat autour de ce sujet-là. Ça veut dire que ce sujet-là reviendra, comme je le disais tout à l'heure, comme un sujet d'enjeu stratégique pour le pays.
Alors, vous êtes un industriel de la santé.
Oui. Bon.
Et je voudrais terminer cette émission par un clin d'œil. Je suis un amateur de latin et de grec, et j'observe que dans le corps scientifique, eh bien, on a la mémoire longue de la culture qui fonde notre langue. Tous les variants, delta, delta plus, lambda, epsilon, suivent l'ordre de l'alphabet grec. Eh bien, je vous en félicite. Voilà, je vous remercie, Olivier Beaugillot, président Sanofi France.
Merci à vous.
Merci pour toutes vos explications.
Merci à vous.
Dimanche prochain, même heure, entre 10h et 11h, l'invité de la direction de l'information d'Europe 1 sera Fatia Boujala, professeur d'histoire et géographie au lycée de Toulouse. Pourquoi les enfants de l'immigration ne se sentent pas français ? Merci de nous avoir écoutés. À dimanche prochain.